Bonjour les filles, bonjour à vous toutes les familles et toutes les personnes qui sont sur le live. On est content que vous soyez avec nous sur YouTube. Et c'est vrai qu'en ces périodes, c'est un peu difficile de se réunir, mais on trouve toujours des solutions et on y arrive par la grâce de Dieu. Et on va continuer de faire des temps de louange, on va continuer de faire des temps de culte. Et je vous propose de prendre ce nouveau chant qui dit « Quelle grâce ». C'est vrai qu'on a la grâce de pouvoir se réunir malgré tout grâce à la technologie. Et même si c'est des temps difficiles, Dieu est avec nous. toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance et l'autorité, Seigneur. On croit que tu es souverain dans toutes ces situations. Et on veut te faire confiance, Seigneur, pour tout ce qui se passe. Viens toucher nos vies, Seigneur Jésus. Thank you.
Voilà, bonjour les pies, heureux de vous retrouver pour notre culte ce matin. Donc culte encore dans des conditions spéciales par rapport même aux semaines d'avant, puisque comme vous savez, nous sommes tous en confinement et c'est depuis mon salon que je vais vous communiquer ce que Dieu a mis sur mon cœur pour notre culte de ce matin. Depuis 15 jours, notre monde et notre société tournent au ralenti. Tous les repères que nous avions sont en train de tomber comme un château de cartes. Nous vivions jusque-là une petite vie tranquille, dans une société relativement en paix, où on pouvait se réunir en famille, avec les amis, où on pouvait aussi se réunir et s'assembler en tant qu'église pour louer et prier Jésus. Et puis le virus est arrivé et il a changé complètement la donne. Fermeture des écoles, fermeture des lieux de culte, confinement à la maison. L'ensemble de ces mesures étant parfaitement légitime au vu de la gravité de la situation que nous traversons. Nos aînés, nos grands-parents qui ont connu la guerre ont déjà traversé ce type de situation. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est une situation complètement inédite. Et elle est capable de faire sortir le meilleur en nous comme des actions de solidarité et d'entraide, mais aussi le pire de ce qu'il peut y avoir dans le cœur de l'être humain. L'actualité nous montre que cette crise sanitaire a entraîné un vent de panique, un vent de peur et d'angoisse dans le cœur de nos contemporains. Ça peut être l'angoisse d'un fils ou d'une fille de voir souffrir et perdre un parent atteint par ce fléau. Ça peut être la crainte d'un père craignant de perdre son travail et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ça peut être encore la peur d'un patron d'entreprise qui ne sait pas si elle sera toujours debout demain après cette épidémie. Nous voyons aussi la peur de l'autre et les conséquences que cette peur peut engendrer. J'étais encore dans les transports en commun la semaine dernière et je voyais dans le regard des gens la peur lorsqu'ils voyaient quelqu'un entrer dans le tram avec un masque. J'ai vu également une vidéo cette semaine d'une caméra de surveillance d'un tram où on voyait une femme en train de mettre des coups de pied et chasser une dame d'origine asiatique du tram en disant « c'est de votre faute si cette épidémie est arrivée ». Des gens se battent pour des pâtes, des gens se battent pour du riz, pour du papier toilette, des papiers d'hygiène, tout ça à cause de la peur de manquer. Tout cela ne fait que montrer l'égoïsme à son paroxysme, et ça décrit bien l'état du cœur et le mal qui règne dans notre condition humaine. Je crois qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à enrayer ces peurs en transmettant, en véhiculant le message de l'Évangile, un autre message à ceux qui nous entourent. Nous sommes porteurs d'un message d'espoir, nous sommes porteurs d'un message de vie. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin dans la lettre de Paul à l'église de Rome au chapitre 12. Et le premier point que je voudrais soulever avec vous, c'est que nous sommes appelés à bâtir des ponts et non à ériger des murs. Commence la lecture dans Romains 12:1 et Paul nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Il est important, avant de commencer l'étude de notre passage, de décrire brièvement le contexte de cette lettre de Paul adressée aux Romains. L'église de Rome était composée de chrétiens d'origine païenne qui ont été rejoints par des chrétiens d'origine juive après avoir été expulsés de Rome par l'empereur Claude en 49 et revenus après la mort de ce dernier. Leur retour causa quelques tensions, quelques divisions au sein de la communauté. Et l'un des buts de Paul dans cette lettre est donc d'apaiser les divisions qu'il pourrait y avoir au sein de la communauté en démontrant que juifs et non-juifs sont tous coupables devant Dieu et de ce fait méritent la colère de Dieu. Et que la seule manière pour eux d'être sauvés de cette colère, c'est la foi en Jésus-Christ. Grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix, Dieu accorde sa justice à tous ceux qui croient dans la promesse de salut en Jésus et qui s'appuient sur elle. À tous ceux qui comprennent qu'ils avaient besoin d'un sauveur et que ce sauveur, c'est la personne de Jésus. Et c'est au sein de ce contexte de tension que Paul invite et interpelle les croyants à faire la différence. Après avoir développé dans les 11 premiers chapitres la théorie, Paul explique à partir de ce chapitre 12 comment cela se manifeste concrètement en pratique. La doctrine seule, mes amis, ne suffit pas. Elle est là pour que cela produise une différence concrète dans notre quotidien. Vous savez, je peux connaître toutes les caractéristiques et les apports que la consommation de fruits et légumes peuvent avoir sur ma santé, mais si j'en mange pas, j'aurai des carences alimentaires. Ici, Paul encourage et motive les chrétiens. Il ne leur donne pas d'ordre, mais il cherche à leur faire comprendre ce que le salut gratuit qui nous est offert par Christ peut produire en nous. Il explique qu'à cause des compassions de Dieu, nous sommes invités à offrir notre vie en sacrifice vivant. Paul rappelle que Dieu a eu compassion de nous. Alors que nous étions mauvais, orgueilleux, Dieu a déversé sa grâce en envoyant Christ mourir sur la croix à notre place. Il a tout donné pour que nous puissions être en paix avec lui, pour que nous puissions être réconciliés, pardonner de nos fautes, pardonner de nos erreurs, pardonner de nos manquements. Cet amour que nous ne méritions pas de ce Dieu qui nous aime d'un amour fou doit nous motiver à mener une vie pour lui. En reconnaissance pour sa bonté, pour sa compassion et sa miséricorde à notre égard, Jésus a donné sa vie et nous sommes invités en retour à faire le don de soi. Mais qu'est-ce que peut bien vouloir dire offrir nos corps comme un sacrifice vivant ? Dieu nous invite à offrir nos vies, c'est-à-dire une vie entièrement consacrée à Dieu, une vie qui fonctionne selon les standards du royaume de Dieu. Voilà pourquoi on nous parle de sacrifice vivant. Vous savez, ce n'est pas un hasard si le texte ne nous dit pas de lui offrir nos cœurs, mais nos corps. Le corps est la partie sociale de notre être. C'est le corps qui entre en contact avec le monde qui nous entoure et avec les autres, ceux qui sont là à nos côtés. Cela vise la vie commune et notre implication dans la communauté et la société. Nous sommes des êtres d'action, nous sommes des êtres de relation, créés avec une bouche pour parler, avec des mains pour agir et des pieds pour nous déplacer. Ce passage nous dit qu'il ne faut pas réduire la foi au domaine intérieur, à le spiritualiser, parce que la foi, c'est quelque chose de concret. Alors vous allez me dire, Raymond Pierre, t'es bien gentil, mais tu oublies que nous sommes confinés et qu'on ne peut pas être en contact avec les gens. Alors s'il est vrai qu'on ne peut pas être en contact physiquement avec les gens, nous pouvons quand même être en relation au travers d'échanges, de messages, au travers d'appels, au travers de SMS, au travers des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons donc virtuellement être en contact avec ceux qui nous entourent grâce aux moyens de télécommunication modernes. Et comme vous le voyez, il en circule des choses en ce moment et des informations sur les différents médias et réseaux que nous avons à notre disposition. Alors, comment être en tant que chrétien ce sacrifice vivant au sein des médias qui sont à notre disposition ? Mais premièrement, en ne transmettant pas, en ne partageant pas tous les contenus de gens non qualifiés, n'ayant aucune compétence et qui se sentent obligés de commenter l'actualité derrière leur webcam en y voyant du complot, en y voyant des non-dits et en entretenant une certaine psychose. Tout ça, ça crée un climat de méfiance vis-à-vis de nos autorités et vis-à-vis de leurs décisions. Vous savez, la plupart des informations qui peuvent circuler sur Facebook, sur Twitter, etc., ne contribuent en rien, si ce n'est à générer de la panique et à troubler et à semer le doute et finalement d'ériger des barrières entre les gens. Cela fait le jeu de Satan, qui ne cherche qu'à opposer, à diviser et à détruire. Utilisons donc les canaux que nous avons pour parler de l'espoir qu'il y a en Jésus. Partageons comment Dieu nous aide à traverser les temps de difficulté. Jésus nous a invités à être ses témoins, c'est-à-dire à raconter ce qu'il a accompli et ce qu'il fait pour nous au quotidien. Vous savez, il y a un danger dans ces moments troublés, qui est aussi pour nous chrétiens de sortir des textes eschatologiques, c'est-à-dire des textes qui décrivent les temps de la fin de la Bible, en les sortant de leur contexte. S'il est vrai que la Bible décrit des temps de la fin avec précision, elle le fait toujours en suscitant l'espoir aux gens, en permettant aux gens de fixer leur regard sur Jésus, en leur expliquant comment Jésus est la porte d'espérance au travers de ces temps de malheur. Voilà pourquoi juste partager et transmettre ce genre de message sans présenter la bonne nouvelle de la grâce de Jésus est inefficace. On n'amènera jamais quelqu'un à Jésus par la peur. C'est juste bon pour faire des scénarios de films à sensation. Et nous ne sommes pas invités à faire du sensationnalisme, mais nous sommes invités à faire des disciples de Jésus qui comprennent l'amour immérité dont ils sont les bénéficiaires. Alors, lorsque quelqu'un nous partage ses doutes, lorsque quelqu'un nous partage ses peurs, ses craintes, partageons, communiquons ce que Dieu a fait dans nos vies. Prions pour ces gens, prions pour nos proches et communiquons-leur des paroles qui vont les conduire à chercher et à connaître davantage Christ. Ne soyons pas des gens distants qui dénoncent et qui montrent du doigt de loin, mais soyons des acteurs de terrain au plus près de ceux qui sont désespérés, même si ça se passe derrière notre écran d'ordinateur ou derrière notre combiné téléphonique. Pensons à nos amis, pensons à nos familles, pensons à nos frères et sœurs en Christ, à tous ceux qui sont isolés. Contactons-les, appelons-les, faisons du lien entre nous. Nous ne soupçonnons pas ce que produire un appel, ce que peut produire un mot d'encouragement pour quelqu'un. Nous sommes invités, les amis, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, qui peut nous mettre des gens à cœur. Et que nous puissions être comme un interlocuteur, comme un communicateur des divers encouragements et des diverses grâces que Dieu veut déverser pour ceux et celles qui sont isolés, pour ceux et celles qui sont pris dans la panique, dans la peur. Vous savez, c'est ce type de vie consacrée à Dieu qui lui est agréable. Voilà le culte raisonnable. Voilà ce qui honore vraiment Dieu. Au-delà du rituel, soyons relationnels pour être vraiment des gens spirituels. Deuxième point que je voudrais soulever avec vous, c'est que pour ne pas agir comme tout le monde, on a besoin d'être renouvelé en lui. Pour ne pas agir comme tout le monde, renouvelle-toi en lui. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Vous savez, mes amis, dans l'eau, les seuls poissons qui suivent le courant, c'est les poissons morts. Samuel Benetro, le théologien français, a dit la chose suivante: « L'immense compassion de Dieu envers des êtres non seulement défigurés par la laideur du péché, mais véritablement rebelles, ennemis, surtout quand cette compassion prend le visage de Christ, produira chez le croyant un mouvement, une dynamique propre à se lancer dans une voie contre nature. » Pour ne pas faire comme tout le monde, pour ne pas nous laisser influencer par l'état d'esprit ambiant, par ce mode de pensée qui est là. Nous avons besoin d'être vivifiés, nous avons besoin d'être comme rendus à la vie, comme renouvelés. Et c'est ce que Paul nous communique ici. Il dit que nous avons besoin d'une transformation, d'une métamorphose intérieure pour vivre la mentalité du royaume de Dieu et non celle du monde actuel conduit par ses désirs égoïstes. Le monde à venir a été inauguré lors de la première venue de Christ. Jésus a dit que son royaume s'était approché de nous. Il a commencé son œuvre en nous, œuvre qu'il terminera lors de son retour. Mais en attendant, il a commencé son œuvre en nous. Et comme le dira George Ladd, les croyants sont dans ce siècle, mais leur mode de vie, leurs normes de conduite, leur but et leur fin n'en font pas partie. Ce siècle étant par essence orgueilleux et centré sur l'homme. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Dieu a commencé une œuvre en nous par son esprit. Le texte nous parle d'intelligence. Dans la pensée biblique, l'intelligence, le mot grec « nous », ne désigne ni les émotions, ni simplement les facultés intellectuelles et rationnelles de l'homme, mais ça désigne sa volonté. Ce n'est pas la capacité à maîtriser des données conceptuelles, mais c'est une attitude intérieure qui englobe la pensée, la volonté et qui inclut également la dimension morale. Il s'agit de cette volonté en tant que faculté humaine pouvant être au service du mal ou de Dieu. Vous savez, Dieu ne protège pas et ne transforme pas le disciple contre sa volonté. Alors, voilà comment Christ nous renouvelle. il ne nous transforme pas en remplaçant l'être humain que nous sommes par un être divin, il ne change pas notre personnalité, mais il réoriente notre volonté. Cette transformation spirituelle produit un renouvellement qui va modifier notre façon de voir le monde, de nous voir nous-mêmes, mais également notre façon de nous comporter. C'est quelque chose de très concret. Et lorsque nous nous laissons transformer, renouveler par Dieu, notre intelligence va désirer accomplir la volonté de Dieu. Notre volonté va s'aligner avec le ciel. Vous savez, nous agissons toujours en fonction de notre volonté. Ce renouvellement nous permet de voir le monde au travers de la paire de lunettes de Dieu et non celle de la société. Et ça nous permet d'agir selon le cœur de Dieu. Nous l'avons vu, Dieu ne transforme pas quelqu'un contre sa volonté. Pour qu'il puisse œuvrer en nous, nous devons prendre du temps avec lui. Je crois que la saison que nous traversons est propice à prendre du temps avec Dieu pour le laisser nous renouveler, pour le laisser nous parler, pour le laisser nous enseigner. Jésus a dit à Satan, lorsque ce dernier cherchait à le tenter dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le renouvellement de la vie de Dieu en nous se fait par l'intermédiaire de l'Esprit qui transforme notre pensée par l'étude régulière et la méditation de l'Écriture. Vous savez, la Bible est le moyen premier par lequel Dieu nous parle. Si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre ta Bible. Si tu veux entendre Dieu te parler, mon ami, ouvre ta Bible. Au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit veut incliner nos pensées et il veut aligner nos cœurs sur la pensée de Dieu. Vous savez, Netflix, Amazon vont t'amuser, BFM, TV ou encore Canal+, ou TF1 vont t'informer. Mais seule la Bible va te renouveler. Mes amis, la saison que nous traversons n'est pas un obstacle pour le témoignage et l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, qui est encore celui qui veut libérer et sauver du péché, celui qui est encore capable d'agir dans les situations qui peuvent nous dépasser. Mais je crois que c'est un temps que Dieu nous permet pour encourager ceux qui sont désespérés, pour consoler ceux qui sont affligés, pour relever ceux qui sont tombés et pour interpeller ceux qui sont fermés. Comme l'a rappelé notre président la semaine dernière, il y a une guerre contre un ennemi invisible. Mais il ne s'agit pas simplement d'un virus, mais de celui qui a décidé de faire du mal, celui qui a décidé de détruire et d'entraîner dans sa chute nos contemporains. Mais Dieu nous a appelés, il nous a qualifiés, il nous a établis pour que nous puissions faire la différence. Il nous assure de sa présence et de sa puissance à nos côtés. La Bible nous dit qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné un avant-goût du ciel. Il nous a donné les moyens de pouvoir annoncer son nom et sa grâce à ceux qui nous entourent. Alors laissons-le nous renouveler. Laissons-le nous transformer. Prenons du temps avec lui. Prenons du temps au contact de sa parole. Je voudrais maintenant terminer par la prière. Seigneur, je te remercie pour cette pensée de ce matin. Je te prie vraiment de renouveler toutes ceux et celles qui sont en proie à la peur et au doute. Je te prie que ta parole vienne renouveler leur intelligence ce matin. Je te prie pour que ta paix surnaturelle vienne habiter dans les cœurs. Tu vois tous ceux et celles qui sont derrière leur écran et qui sont pris comme par la panique. Je te prie, Esprit de Dieu, pour que ta paix surnaturelle vienne toucher les cœurs maintenant. Viens les relever, viens les encourager. Que ta parole soit cette lampe sur le sentier des uns et des autres. Viens, Jésus, encore faire du bien. On te prie encore pour toutes ceux et celles qui sont touchés et atteints dans leur corps. Père, nous te prions pour une restauration pleine et complète. Nous te prions de relever ceux qui sont abattus ce matin. Tu n'as pas changé, tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous comptons sur ta grâce. Viens encore à notre secours. Nous voulons fixer les yeux vers toi, Père éternel, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons encore nous abreuver ce matin au torrent de tes délices. Viens fortifier, viens nous encourager. encourager encore, Père. Merci pour ta grâce à notre égard. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Nous ne sommes pas seuls et nous te bénissons, Jésus. À toi la gloire et la louange, Père. Amen. Je voudrais remercier Malik et l'équipe qui nous a conduits dans ce temps de louange ce matin. Voilà également quelques annonces avant de terminer notre culte. Mais premièrement, retrouvez-nous chaque jour sur YouTube ou sur Facebook pour des courtes vidéos d'encouragement pour traverser ces temps difficiles que nous vivons. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06 28 13 58 51, 06 28 13 58 51 ou par mail sur contact@epi-strasbourg.eu. Vous pouvez également nous soutenir financièrement. Vous savez que nous avons aussi besoin pour fonctionner comme toute association de ressources. Un RIB va être mis à votre disposition sur le site www.epi-strasbourg.eu dans la rubrique « Nous soutenir ». Donc vous aurez accès à un RIB si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Également vous donner quelques nouvelles et de toujours vous demander de prier pour plusieurs membres de notre communauté qui sont atteints par cette maladie. On a encore plusieurs cas de gens hospitalisés, dont certains dans des cas graves. Donc vraiment, vous demander la prière. N'hésitez pas encore hein, dans les groupes, des différents groupes de maisons, etc., de vous tenir informés via WhatsApp, via les différents médias, via texto, et de prier les uns pour les autres. Nous croyons que la prière a une grande efficacité. Donc vraiment, on vous demande encore de vous tenir devant Dieu pour ça. Voilà, on a terminé pour les annonces et je voudrais souhaiter à chacun, à chacune, au nom de toute l'équipe pastorale, un très bon dimanche malgré ce temps d'isolement et que vraiment la grâce de Dieu vous accompagnera durant toute cette semaine et n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Bonne semaine à chacun, soyez bénis et à bientôt.